Économie sur Radio Lac et les chaînes Carac, avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Une émission spéciale autour de l'évolution des qualifications de la population genevoise. C'est l'événement économique de la CCIG. Quels sont les défis du recrutement à Genève? Une étude faite par la CCIG, la BCGE, l'Office cantonal de la statistique également. Pour en parler toujours, Nathalie Hardine, la directrice du département politique de la CCIG. C'est Brigitte, professeur d'économie à l'IHEID. Et donc, autour de la table toujours, Jean-Baptiste Pimental et Miranda. Vous êtes le CEO fondateur de Moonwork. Vous utilisez, entre autres, l'intelligence artificielle pour améliorer le recrutement. Ça l'améliore vraiment? On est obligé aujourd'hui d'avoir une IA? On n'arrive plus à voir quelqu'un et dire vous êtes la bonne personne pour un poste?
Alors, on n'est pas obligé. On peut toujours faire la méthode traditionnelle. Ça prend juste un peu plus de temps et ça coûte un peu plus cher. Donc l'idée, en tout cas du moins qu'on essaie de développer, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le processus dans tout ce qui va être le plus objectif possible et de laisser la part à l'humain pour finaliser le processus de sélection. Voilà. Simplement.
C'est une aide, ce n'est pas un remplaçant.
Exactement.
C'est important de l'entendre.
C'est exactement. Nous, on veut, en tout cas, aujourd'hui, on croit encore en cette combinaison qui fonctionne. L'IA va accélérer le processus d'identification des profils à aller cibler. Et ensuite, une fois qu'on a eu un candidat, il va nous aider à filtrer les éléments les plus intéressants pour qualifier ce profil en présélection, avant qu'on passe aux interviews réelles.
Est-ce que ça ne crée pas automatiquement un gap générationnel? Parce qu'il y a celles et ceux qui ont l'habitude de ces codes-là et celles et ceux qui ne les ont pas.
C'est juste. Alors ensuite, quelle que soit la génération, je dirais, il y a encore le principe du CV. Et le processus de candidature chez nous repose sur le CV. Voilà, donc à partir du moment où on a un CV, le fait qu'on utilise l'intelligence artificielle derrière pour aller cibler, pour aller attirer, pour analyser ce CV, ça va fonctionner. En revanche, c'est vrai qu'il y a des éléments qui vont un peu plus toucher la plus jeune génération qu'on va essayer d'utiliser, notamment l'utilisation de la vidéo, qui là où on a peut-être parfois des problématiques générationnelles où jamais quelqu'un se dirait je vais m'enregistrer en vidéo, c'est pas mon
oui,
truc.
On soit pour une vidéo, il n'y a pas de son, voilà, avec un filtre chien sur la tête.
J'ai déjà reçu d'ailleurs des feedbacks qui me disaient je ne ferai pas cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en option. Donc,
d'accord.
C'est juste pour permettre à quelqu'un d'améliorer ses chances.
Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024 et bientôt 25, ça existe encore un bon CV? Il y a quelques années, on disait il faut mettre en avant, il faut l'écrire comme ça. Aujourd'hui, tout est passé à la moulinette informatique derrière.
Alors, la plupart des sociétés utilisent ce qu'on appelle un ATS, un Application Tracking System. Donc, c'est vrai que la plupart des CV, tristement, ne sont même pas lus par les recruteurs. Ils sont analysés. Donc là, il faut utiliser un moyen très, très clair de construire son CV. Il y a pas mal d'outils en ligne qui existent pour mieux orienter, pour que les titres soient clairs. Et souvent, il faudrait peut-être adapter même son CV à l'offre de job à laquelle on postule pour que les identifications automatiques qui se font vous fassent remonter en termes de score. Donc en soi, on devrait adapter son CV à chaque candidature.
Donc ça veut dire, et le recrutement est loin d'être la seule matière où l'on fait ça, aujourd'hui, en fait, je dois parler à un ordinateur pour qu'un ordinateur vienne parler à un humain pour dire il faut que ces deux humains discutent.
C'est un petit peu triste, effectivement, mais l'idée, c'est de passer les premières barrières, en fait. Le plus important, on se retrouve dans une situation où il y a des offres d'emploi qui sont mises, il y a énormément de candidats qui ne sont pas forcément les plus adaptés, qui vont se mettre à postuler. Il y a des outils qui existent maintenant pour faire postuler en masse avec l'IA aussi les candidats. Mais derrière, du coup, il y a ce premier filtre et le but, c'est d'avoir la chance de rencontrer la personne en physique parce que c'est là que tout va se jouer. Mais du coup, il faut utiliser et s'adapter aux technologies pour passer ces premiers filtres.
Et pour parler de la réalité du travail aujourd'hui, je fais mon CV depuis chez moi, je fais ma vidéo depuis chez moi, potentiellement un entretien depuis chez moi. Autant travailler depuis chez moi alors?
Bah, c'est tout le sujet en ce moment du télétravail, c'est sûr, qui fait partie des nouveaux enjeux pour attirer la nouvelle génération. On se retrouve avec des conflits entre les employeurs qui veulent faire revenir les gens au bureau, les employés qui veulent rester à distance, et qui fait naître d'ailleurs des compromis autour du travail hybride qui font partir des éléments d'attractivité d'ailleurs des entreprises aujourd'hui.
Alors je ne sais pas si Nathalie Hardine ou Cédric, vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur cette appétence et trouver ce juste milieu entre travail à la maison et retour en présentiel.
Peut-être quelques éléments. Je pense que le risque qu'il y a, si on est en trop distance, c'est qu'on rate toutes ces informations, toutes ces interactions par hasard. On n'a pas encore inventé la machine à café virtuelle. Donc ça, c'est un aspect. On le voit aussi, par exemple, dans le monde académique, pour les diverses conférences qu'on a. Mes anciens collègues disaient, en fait, les conférences, c'est surtout utile pour papoter avec les gens plutôt que d'aller suivre les présentations de papier qu'on connaît déjà.
Il y a beaucoup de séances qui pourraient être un email, hein, on dit aussi.
Voilà, alors après, bon, écouter ce que la personne présente, c'est bien, mais c'est en fait toutes ces petites discussions qui sont complètement aléatoires des gens, et c'est... Cet aspect-là est très utile dans un cas de travail aussi. Si vous êtes juste toujours tout seul derrière votre ordi, ce n'est pas très motivant. Donc, souvent, le moment clé dans une activité professionnelle, c'est la pause déjeuner. C'est là qu'on va voir les collègues, on va donc peut-être se dire des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Et donc ça, je pense qu'il faut prendre garde à ne pas trop le mettre de côté, avoir des gens qui se parlent plus.
Nathalie Ardine.
Oui, un des avantages du télétravail, c'est aussi pour les personnes qui le pratiquent, c'est d'économiser du temps, en fait, du temps qu'on perd tous dans les embouteillages ou même les transports publics. Donc c'est quand même un confort. Mais comme le dit le professeur Thiel, l'échange qu'on a en présentiel quand on est au bureau, nous, enfin, on le voit bien au bureau. On se lève, on va discuter avec un collègue pour lui demander quelque chose. C'est beaucoup plus rapide, utile, convivial que de lui envoyer un mail, c'est clair.
Et nous, par exemple, ici en présentiel, il y a Noah qui fait la réalisation de cette émission, qui a un gros bouton vert sous le doigt. Et je n'ai qu'à lui dire, Loa, s'il te plaît, appuie sur Next. À tout de suite.